Hey, bonjour, mesdames et messieurs, c'est vendredi et c'est maintenant le moment de faire le sixième épisode de Dossier Bizarre. Jason Lévesque est aux commandes. Aujourd'hui, c'est Tristan Brunet-Dupont qui va nous présenter son dossier. Tristan, gros dossier qu'on va faire en deux parties.
Ben oui, bonjour, salut Jason, gros dossier. Beaucoup de recherches, je te niaise pas, là, peut-être un bon 3 heures de recherche facile. Là.
Oh!
3 heures de recherche, là, 3 longues heures de recherche et j'ai réussi à sortir beaucoup de choses sur le triangle des Bermudes. Et il y a tellement de choses, on pourrait faire, je dirais, un 10 heures sur le triangle des Bermudes.
Ah, si, hein?
Mais on va y aller en 2 épisodes, on va faire un spécial.
Ben
ça va
oui.
être sur 2 épisodes, donc ce vendredi et le vendredi prochain, ce sera la finale là, pour le triangle des Bermudes.
Et ce qui est tout à fait une coïncidence, c'est qu'on fait un spécial sur 2 épisodes en même temps que mes 2 semaines de vacances, mais
ben
quelle
oui.
merveille incroyable!
Exactement. Non, c'est vraiment formidable. Et là, merci pour l'idée d'ailleurs d'un de nos.
Ben oui, c'est un de nos auditeurs hein, qui nous a envoyé des suggestions de sujets et le triangle des Bermudes en faisait partie. Mm-hmm. Triangle des Bermudes qui, je vais faire une tranche de vie. Là, on n'aura pas la petite toune qu'on met d'habitude, mais tranche de vie. Triangle des Bermudes, je te dirais, moi, quand j'étais jeune, c'est la première chose de laquelle j'ai été conscient. Il y avait peut-être des affaires inexpliquées dans notre monde. Vraiment, ah, j'avais peur du triangle des Bermudes quand j'étais petit. Ben oui, il a fallu que mon père me montre sur une carte, garde, c'est là.
OK,
c'est
oui.
C'est là, c'est loin. Mmh. Il n'y arrivera rien, là. T'es correct, là. J'étais très jeune, mais c'est le premier phénomène, à tort ou à raison, là, phénomène inexpliqué, duquel j'ai été conscient de dire il y a des affaires bizarres qui peuvent se passer dans le monde. Et vraiment, j'ai comme un attachement particulier à ce phénomène-là à cause de ça.
Ah, ben, je suis content de pouvoir partager ce sujet-là avec toi, Jason.
Ben oui, éduque-moi maintenant.
Exactement.
Là.
Et tu avais des raisons d'avoir peur, Jason, à l'époque.
Ah non!
Tu avais des bonnes raisons d'avoir peur. Quand on commence à fouiller, à chercher, on se rend compte que ce sujet-là fait peur parce que c'est incroyable la quantité de bateaux et d'avions qui ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis à peu près 70 ans. C'est incroyable. Mais pas juste la disparition. C'est les événements autour de la disparition. On a même des témoignages d'un pilote que vous allez voir, une histoire que je vais vous raconter, que lui, il s'en est sorti, mais il a passé à travers un orage spécial. Bref, je ne vais pas tout dévoiler. Là.
Mais non, parce que c'est ça. Si on faisait le tour de tous les phénomènes étranges qui sont associés au triangle des Bermudes, il y en a tellement, on pourrait juste en faisant la liste et une courte description, on pourrait remplir 2 émissions facilement.
C'est ça, exact. Fait que c'est très bien, on pourrait faire 10 heures si on les décrivait tous.
Ouais.
Mais comme tu dis, j'en ai sélectionné 4 disparitions qui font beaucoup jaser. 3 disparitions et une histoire étrange, justement, là, qui fait énormément jaser, qu'on parle dans les documentaires et tout. Alors, premièrement, on va commencer par situer le triangle.
Mais qu'est-ce que le triangle? Exact. C'est Bermude, c'est pas l'instrument de musique.
Non, ting, le petit triangle.
Oui. À chaque fois qu'il y a un ting, il y a quelqu'un qui disparaît.
C'est ça. Les 3 points formant le fameux triangle des Bermudes sont Miami, les Bermudes et San Juan à Porto Rico.
OK.
Alors, si on relie ces 3 points-là,
ça fait un triangle.
Un beau triangle. Et,
qui est quand même une superficie assez importante.
Oui.
C'est relativement vaste comme zone.
Exact. C'est une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés.
C'est plus grand que mon salon.
Et si on regarde sur la carte, il n'y a pratiquement pas de naufrage ou disparition au milieu du triangle. Toutes les disparitions suspectes de navires et d'avions se retrouvent sur les lignes du triangle.
Ah, à l'entrée du triangle.
Si on trace le triangle, si on relie les 3 points, toutes les disparitions se font vraiment sur le contour, c'est ça, du triangle, d'où justement le mystère du triangle des Bermudes. Mm. S'il était tout dans le milieu aussi, ben là, ça ferait juste un gros spot de disparition sur la carte du monde. Mais là, c'est vraiment sur les 3 côtés du triangle qu'on a les disparitions.
Mm.
Alors, ce qui forme un triangle. On va commencer avec la première histoire. C'est quand que ça a commencé, ça?
Ben oui!
La légende, le mystère du triangle des Bermudes. Eh bien, tout a commencé avec la disparition de l'escadrille 19.
Ah oui!
On parle pas d'un avion, là.
Non.
On parle d'un escadrille complet de 5 bombardiers qui a disparu. Alors, le tout s'est passé le 5 décembre 1945. L'escadrille quitte Fort Lauderdale. Lauderdale.
Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale. On est vendredi, un petit peu de fatigue, pour un exercice de bombardement à basse altitude. Alors, on est en 1945, 5 décembre, le temps de la Deuxième Guerre mondiale. La majorité des pilotes étaient encore en formation, mais le chef d'escadrille, Charles Taylor, est un pilote de chasse expérimenté. L'escadrille de 5 bombardiers quitte la pointe de la Floride et se dirige vers l'est, au-dessus des Bahamas. Les problèmes commencent avec l'apparition du brouillard. Alors, tout allait bien jusqu'à ce que le brouillard apparaît. Les pilotes semblent de plus en plus... ils savent plus, en fait, ils savent plus dans quelle direction ils vont. Et ils semblent vraiment là, être perdus à cause du brouillard. Les 5 pilotes s'en vont vers l'est et là, ils ne voient plus rien. Ils se demandent, commencent à se poser des questions. Coudon, on s'en va-tu dans la bonne direction, nous autres, là? Alors, l'escadrille 19 est perdue. Heureusement, une autre mission qui survolait les Bahamas capte leurs échanges.
Donc, on a pu entendre ce qui se disait entre les différents pilotes.
Exactement. Okay. Le lieutenant Robert Cox, chef d'escadrille qui était justement sur une autre mission près des Bahamas, leur offre son aide. Cox demande à Taylor sa position et il est surpris de découvrir que l'escadrille se trouve au-dessus des Florida Keys, à des centaines de kilomètres au sud de leur plan de vol.
Alors, il avait dévié de quelques centaines de kilomètres.
Exactement.
Déjà.
Il s'en allait pas vers l'est, au-dessus des Bahamas. Il était complètement au sud de la pointe de la Floride. Le lieutenant explique à l'escadrille de Taylor que pour revenir à Fort Lauderdale depuis les Florida Keys, ils doivent mettre le soleil sur leur gauche et longer la côte jusqu'à Miami. Taylor suit le conseil de Cox et suit la direction du nord, mais il ne voit toujours pas la Terre. À ce moment, la transmission est coupée. Plus de communication possible avec le lieutenant Cox. Alors là, plus de communication possible. La nuit tombe et l'escadrille fait face à des vents déchaînés. Taylor est désespéré. Il se dit que l'escadrille est probablement à l'ouest de la Floride, dans le golfe du Mexique. C'est pourquoi il ne distingue pas la Terre. Les réserves de carburant des 5 bombardiers sont dangereusement faibles. Taylor prend une série de décisions de plus en plus irrationnelles. Il met le cap à l'est pendant 10 minutes, puis change pour aller à l'ouest, puis de nouveau à l'est, et ensuite de nouveau à l'ouest. À 6h20, près de 4 heures après leur décollage, le dernier message de l'escadrille 19 arrive sur les ondes. Le message était « Tous sur moi! On va devoir s'éjecter! Dès que l'un d'entre nous tombe à moins de 40 litres, on saute tous ensemble! »
OK.
Fin du signal, plus rien. On a perdu la trace de l'escadrille 19 à tout jamais. Les pilotes ne furent jamais retrouvés, ni les carcasses d'avions. Au cours de la même nuit, il y a même un hydravion qui a été envoyé pour rechercher l'escadrille, mais lui aussi a disparu.
Donc les secours ont disparu. Ça va bien.
C'est comme une nuit maléfique, là, cette nuit-là, le 5 décembre 1945. Un navire de guerre a même affirmé avoir vu une boule de feu à la surface de l'océan, ce qui était l'hydravion en question. Alors, l'hydravion a été justement aperçu prendre en feu sur la surface de l'océan par un navire de guerre. Alors, l'escadrille 19, les 5 bombardiers disparus et l'hydravion qui était parti à la recherche de l'escadrille a disparu aussi.
Si je ne me trompe pas, en 1945, on avait quand même des radars, on était quand même capable de suivre on savait ce qu'il y avait dans le ciel.
Oui, effectivement, la Navy a passé 5 jours à chercher des débris dans le secteur où ils pensaient que l'escadrille avait passé, mais à la stupéfaction générale, elle ne retrouvera aucune trace des avions disparus. D'où le mystère, justement, de la disparition et le fait de ne pas retrouver les avions en question. Donc là, comme s'il avait disparu dans un trou noir, dans l'espace-temps.
Pas de débris, pas de restants, pas rien, pas de survivants. Parce que bon, si on a 5 avions, il y a quand même minimalement 5 personnes, peut-être plus parce que c'est des bombardiers. Souvent, il y a un copilote, il y a le bombardier justement qui est en arrière, les mitrailleurs qui sont à différents endroits pour protéger le bombardier. Donc, habituellement, ils ne sont pas seuls dans ces avions-là. Mais on a minimalement 5 personnes, probablement plus, qui ont juste disparu, pas de signal de détresse parce que ça existait à l'époque, pas de débris, pas de traces nulle part, on les voit pas. Fait que donc, officiellement, on sait toujours pas ce qui est arrivé avec ces 5 avions-là.
Exactement, on sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est vraiment la première histoire étrange qui fait parler, justement, qui a créé un peu le mythe, le mystère du triangle des Bermudes. Il y a encore des gens, des soldats américains, qui recherchent des retraités, qui recherchent les épaves.
Ils veulent retrouver les épaves.
Ils veulent retrouver les épaves, justement, pour l'honneur de leurs compatriotes de l'armée aérienne des États-Unis.
Ce qui est très, très fort dans l'armée, ben, dans toutes les armées, habituellement, on tente de ne pas laisser personne derrière, y compris si la personne est décédée. Même si la personne est explosée, si on est capable de trouver une trace de cette personne-là, que ce soit un morceau, les dog tags, le collier qui identifie, oui, le casque, l'arme, peu importe. Si on est capable de ramener minimalement quelque chose, c'est un peu la philosophie de toutes les forces armées du monde. On ne laisse personne derrière.
Exact.
Peu importe ce qui reste, on essaie de le ramener. J'imagine que oui, il doit y avoir des militaires qui sentent que c'est leur devoir d'essayer de rendre hommage à ces personnes-là qui sont disparues.
Exact. Il y en a même un, ça fait 30 ans qu'il fait ça à tous les jours. Il part avec son navire, il fait justement une étude comme des fonds marins là, avec un radar là, qui envoie des...
Mais hey, c'est 1 million de kilomètres carrés, c'est quand même. Puis on ne sait pas exactement à quel endroit sont disparus. Il n'y a pas vraiment d'indices. Mm-hmm. On sait qu'ils sont allés à l'est pendant un bout, ils sont retournés à... T'sais, finalement, ils ont viré en rond.
Exactement.
Ils ont viré en rond. C'est un peu comme quand on est pris d'un sens unique à Montréal, là, mm-hmm, puis on voit notre destination, on n'est jamais capable de se rendre. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'ils ont fait, mais eux ne voyaient pas où ils s'en allaient, donc n'avaient aucune idée de leur emplacement.
Exact.
C'est quand même assez particulier parce que on se rapporte à la Deuxième Guerre mondiale, les bombardiers étaient capables de se rendre à un immeuble précis, peu importe les conditions, ils se faisaient tirer dessus, il y avait souvent du brouillard, c'était de nuit, étaient capables de se rendre à leur destination, leur cible. Là, on est en exercice tout près de notre base et on se perd complètement à ce niveau-là. C'est assez particulier.
On traversait l'Atlantique, comme tu le dis, lors de la Seconde Guerre mondiale, mm-hmm, pour aller attaquer, on parcourait l'océan Pacifique, là, oui, l'Atlantique, alors... d'aller faire une couple de centaines de kilomètres pour se rendre aux Bahamas pour un petit exercice de bombardement à basse altitude. C'est assez curieux. On a parlé d'un brouillard.
Oui.
Pendant la disparition.
Mais ils ont des instruments, ils ont des cartes. Exact. Ils sont équipés justement pour ces circonstances-là.
Mais là, il y a un pilote. C'est là que ça devient intéressant pour la deuxième histoire. Parce que là, on commence à faire des liens. La deuxième histoire, c'est un pilote chevronné qui s'en est sorti, qui n'a pas subi... de disparition, qui est toujours vivant aujourd'hui. C'est lui qui raconte son histoire.
Mais il a vécu quelque chose d'étrange.
Exactement. Okay. Et c'est un pilote. C'est pas quelqu'un qui est pilote, qui sait piloter un avion.
Ouais, habituellement, il a passé quelques tests avant d'avoir son brevet.
Exactement.
Habituellement.
Ça prend une certaine capacité aussi intellectuelle, je dirais. Oui,
d'analyse, être capable de prendre des décisions rapidement parce que bon, il y a des imprévus qui peuvent arriver. Donc, c'est pas n'importe qui peut devenir pilote. On doit suivre un cheminement et on doit montrer qu'on est capable d'être sécuritaire quand on est en vol dans le ciel.
Exact. Alors, accrochez-vous. Ben cette histoire-là fait peur.
Qu'est-il arrivé à ce monsieur?
Bruce Gernon.
Bruce!
Alors, Bruce Gernon, un pilote chevronné, explique qu'il a frôlé la mort dans le triangle des Bermudes. Ça se passe encore en décembre. Le 23 décembre 1970, Bruce, alors âgé de 23 ans, décolle de Andros, aux Bahamas, pour emmener son père et l'un de ses associés jusqu'aux îles Bimini.
D'accord.
Ils ont décollé à 15 heures précises. Il était 15 heures pile quand ils ont décollé. 10 minutes après le décollage, Bruce voit un orage se former devant eux. Ils tentent de le survoler, mais les nuages orageux se dilatent et engloutissent le minuscule appareil. Bruce explique qu'il a continué à gagner de l'altitude pendant 10 minutes afin de survoler le nuage, afin de sortir...
Il tentait de sortir de l'orage, exactement, du nuage là, qui est de tempête.
Mais les nuages gagnaient de l'altitude aussi. Ils étaient donc rendus à 3500 mètres d'altitude. En regardant tout autour de lui, Bruce, son père et son associé sont stupéfaits de constater que le nuage entoure l'avion. Et là, on voit justement une formation que le nuage crée un cercle qui se referme devant Bruce. Alors, le nuage entoure l'avion et il y avait carrément il n'y avait pas de nuage au centre.
Donc, c'est comme un bang.
Exactement, comme un bang. Merci pour l'image.
Il était dans la place du Timbit.
Exact.
Il n'y avait rien, mais tout autour, le nuage était fermé.
Alors, le cercle se referme devant Bruce, laissant juste un tunnel de ciel dégagé devant eux. Bruce s'est alors dit qu'il pouvait passer dans cet étroit tunnel dégagé puisqu'il était orienté vers Miami, donc vers les îles Bimini, qui étaient la destination de leur journée. Alors qu'ils se trouvent dans le tunnel, un vortex de brouillard se forme autour d'eux. Puis, alors qu'il s'approche de l'extrémité du nuage, le tunnel commence à se rétrécir. Bruce explique que lui et son père et son associé ont tous eu la même sensation, celle d'être en apesanteur. Alors, pendant que le vortex qui explique dans le documentaire, c'est que les nuages ont commencé à tourner autour de l'avion, vraiment comme un vortex. Et là, il y avait l'impression d'être en apesanteur, les trois. Au même moment, Tous les instruments ont commencé à dérailler. Bruce réussit à sortir du nuage, mais il constate que le vortex de brouillard semble s'accrocher à l'avion et les suit. Alors, en quittant, en sortant du nuage, le vortex, le brouillard, s'est comme accroché à l'avion et les suivait derrière l'avion, alors qu'ils voyaient l'orage qui était comme assez loin derrière.
Ben oui.
Mais le vortex les suivait. Et ils volent donc à l'aveugle encore et se demandent où ils sont rendus. Ils décident donc de faire un appel d'urgence à l'aéroport de Miami. Bruce explique au contrôleur que, selon le temps qu'il était rendu, il devrait se trouver au-dessus des îles Bimini, à 130 km de Miami, selon le temps qu'il était rendu. Mais le contrôleur aérien explique que le petit appareil se trouve au-dessus de Miami.
OK, wow. Là, les îles où il allait, c'était avant Miami.
C'est ça.
Fait que si on fait une ligne droite entre leur point de départ
et
Miami, entre les deux, il y avait les îles.
Exactement.
Donc, il ne devait pas se rendre jusqu'à Miami.
C'est ça, exact.
Et selon le temps où il était, l'heure où il était parti et la vitesse de vol,
c'est ça.
Il aurait dû être rendu à peu près aux îles qui sont quelques kilomètres, cent quelques milles
exactement.
De Miami.
Et il était 15h33, Bruce a regardé sa montre au moment où le contrôleur aérien disait qu'il était au-dessus de Miami. Il était 15h33. Alors, il était donc en vol depuis seulement 33 minutes. Il a donc dit au contrôleur, écoutez, non, c'est impossible. C'est juste impossible ce que vous me dites là.
Parce qu'il a quitté à 15h.
Exact.
À 15h, il a quitté. Plus tard, c'était impossible d'être rendu à Miami, en 33 minutes.
Exact.
C'était un vol de, mettons, une heure.
C'est ça.
Admettons.
Il y avait il a fait un bond de 80 km. Alors, le brouillard s'est dissipé et ils ont vu Miami en dessous d'eux. Donc là, vraiment, il a dit, ah ben, tabarouette, on est vraiment à Miami. Donc, le petit appareil aurait donc fait un bond de 80 km en quelques minutes. Selon Bruce, son appareil aurait passé dans un orage chargé d'énergie électromagnétique qui aurait transporté l'avion à Miami en une fraction de seconde, un peu comme un bond dans l'espace-temps. Alors, ça, c'est assez très, très curieux.
Est-ce que, je ne sais pas, oui. Tu vas peut-être y venir, mais est-ce que ces histoires-là ont été contre-vérifiées ou par des sceptiques qui ont dit, OK, cute ton histoire, mais ben, voici des éléments où il y a des questions qui se posent.
Très bonne question. Premièrement, il y a des météorologues qui ont inspecté cette histoire. Et ils ont dit que pour le cercle devant eux...
Le bang de nuages.
Le bang, ça, c'est possible.
Okay.
C'est deux dépressions, deux formations orageuses qui se rentrent dedans et ça pourrait créer un genre de vortex, un cercle, dans lequel, justement, oui, l'avion aurait pu effectivement
parce
voir...
Parce qu'on parle un peu comme l'œil d'une tempête, par
c'est
exemple.
C'est ça.
D'accord.
Exact. Et l'avion aurait pu passer dans ce trou-là, dans ce vortex-là. Tout ça, c'est possible. Il y a même un... Au niveau de tout ce qui est nuages, le brouillard, le vortex, tout ça, c'est possible. Selon
tout ce qui est environnemental dans
exact.
L'histoire, c'est possible.
Exactement.
Scientifiquement possible. Mm-hmm. OK.
Il y a, par contre, un physicien, un expert de la physique quantique,
mm-hmm.
qui a dit que, bon, les bons dans l'espace-temps, c'est possible, selon la théorie
théoriquement, exactement. Théoriquement, c'est possible.
Exact.
Dans les faits concrets, non, ce n'est pas possible. On n'est pas rendu là
non.
De toute façon.
Ça dépasse un peu notre connaissance de la physique quantique, mais on sait que c'est possible. C'est comme si on prend un drap, tu sais, puis là, on le plie comme. En gros, c'est difficile à expliquer. Là. C'est plus avec des images qu'on fonctionne, mais bref, c'est comme un pli. C'est si on plie l'espace-temps...
C'est qu'on réduit la distance.
Exact.
Ou on réduit le temps. C'est un peu comme si, bon, mettons, on prend un drap, une feuille de papier. Entre les deux extrémités de la feuille de papier, il y a feuille 8,5 par 11, par mm-hmm. exemple. Donc, 11 pouces, mais si je la chiffonne,
exactement.
Je l'écrase, c'est plus 11 pouces.
Exactement.
Dans concrètement, dans ma feuille qui est chiffonnée dans mes mains, les deux... côté de la feuille, ils ne sont plus à 11 pouces, ils sont rendus à 1 pouce ou à un demi-pouce parce que je les ai écrasés.
Exact.
C'est un peu ce qu'on explique par être capable de faire des bonds dans le temps, c'est que le temps se chiffonnerait ou se plierait à un endroit qui ferait que, oups, tout d'un coup, on perd soit de la distance, soit du temps, soit peu importe, mais ça serait un peu l'explication très, très, très vulgarisée qu'on en donne.
Exact. C'est vrai de ça. Si on prend une feuille de papier, là, prenez une feuille de papier devant vous, vous percez un trou avec un crayon au bout de chaque extrémité de la feuille, et là, vous rapprochez la feuille, vous la pliez en deux.
Ils sont rendus à côté de l'autre.
C'est ça, exactement.
Voilà.
Alors, ça pourrait être possible, seulement, l'expert de la physique quantique disait que, selon la théorie d'Einstein, ça prendrait une énergie énorme pour être capable de créer un bug dans l'espace-temps, pour être capable de créer un trou de verre miniature dans lequel on pourrait faire un bond dans l'espace et le temps. C'est possible, mais ça dépasse notre compréhension. Là. Ça prend une énergie considérable. Il disait toute l'énergie que l'humain a créée depuis le début de l'histoire de l'humanité, de toutes les époques, là, toute l'énergie
tout
de l'humanité,
ça mis ensemble.
Tout ça mis ensemble, ça serait même pas nécessaire à créer.
Ça serait même pas... On pourrait même pas utiliser cette énergie-là, ça serait pas encore assez pour faire créer ce phénomène-là.
Exact.
Ou le reproduire.
Exactement. Cependant, ça disait que on n'a pas encore... c'est pas encore prouvé non plus. C'est peut-être qu'il y aurait une explication électromagnétique aussi derrière ça, qu'on n'a pas encore compris, qui se passe dans le ciel, dans dans l'atmosphère, que c'est très compliqué. Il parlait du vortex polaire tantôt. Eh bien, Bruce a une théorie. Il a baptisé le phénomène le brouillard électronique. Alors, selon lui, il vient s'attacher autour de votre appareil et occulte toute visibilité. Puis, les instruments de navigation ne fonctionnent plus et vous ne pouvez plus du tout vous orienter. D'après Bruce, le nuage électrique s'attache à l'appareil dans les airs quand l'avion sort du nuage. Et en sortant du nuage, eh bien, l'appareil fait un bond dans l'espace-temps. Bruce est convaincu que c'est la clé du suspense du triangle des Bermudes. Selon lui, c'est ce qui est arrivé à l'escadrille 19 et à tous les autres avions et bateaux du triangle des Bermudes.
Admettons, l'escadrille 19 se serait retrouvée à 5000 km de la côte alors qu'il devait être proche, finalement on manquait d'essence
exact.
Parce qu'il était rendu trop loin après avoir fait un bond comme ça, dans la mauvaise direction malheureusement.
C'est ça.
Dans le cas de Bruce, il a été chanceux, ça l'a garoché sur Miami, mais ça aurait pu l'envoyer au milieu de l'océan.
Exactement.
Ah.
Alors le phénomène du brouillard électronique, c'est assez curieux là, comme phénomène, mais bon, ça pourrait expliquer les choses. J'ai un petit blanc de mémoire, là. J'avais un autre commentaire.
Ben, on va aller à la pause.
Ah, ben, tabarouette.
Comme ça, tu vas pouvoir te souvenir de ce que tu voulais dire. On prend une petite pause très, très, très rapide, puis on revient avec le triangle des Bermudes.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Le Bingo Express CLE, tous les mercredis à partir de 18h30 sur les ondes de CLE, avec 2 500 $ à gagner à chaque semaine.
On est de retour à l'émission Dossier Bizarre et on va aller voir si Tristan a retrouvé la mémoire soudainement ou bien si sa mémoire se retrouve dans le triangle des Bermudes.
Oui, je me souviens, ça y est.
Ah.
Il y a tellement d'affaires que j'ai appris. Là, je me souviens, les météorologues parlaient justement là, du phénomène de l'avion là, qui est comme un supposé bond dans le temps entre les îles de Bimini et bang, tout d'un coup, il arrive à Miami. C'est 80 km là, quand même qu'il aurait fait en une fraction de seconde. Les météorologues disent c'est peut-être pas un bond dans le temps, mais selon nous, c'est le vortex dans lequel l'avion a passé pourrait être une genre de... La pression de l'atmosphère aurait été différente et l'air plus léger et beaucoup de vent dans la même direction que l'avion.
Aurait poussé l'avion.
Donc l'avion aurait tout simplement atteint une vitesse folle, ce qui aurait donné la sensation d'apesanteur aux gens dans l'avion.
J'aime ça.
Ouais, ça a du sens.
Ouais, j'aime ça.
A du sens.
J'aime
et ça, c'est la théorie des météorologues. Selon eux, c'est vraiment une coïncidence.
Donc, un phénomène vraiment très particulier oui. Où il y a eu... un alignement de phénomènes consécutifs qui aurait fait que il y a la possibilité que ce soit arrivé sans qu'il y ait de paranormal ou de bris dans l'espace-temps, qu'il y aurait une possibilité que ce soit arrivé.
Mm-hmm.
Parce que les gens qui ont déjà pris l'avion, un petit avion ou un gros porteur, on va déterminer la quantité de pétrole, par exemple, le poids de l'avion,
oui.
Comment on peut admettre de passagers, combien de poids de bagages, on calcule tout ça selon la direction qu'on va, les vents, la pression atmosphérique, qu'est-ce qu'on fait comme détour, etc., etc. C'est extrêmement complexe à gérer et on va y aller, bon, ben, mettons, je sais pas, moi, partir pour aller à Paris, ça va me prendre une demi-heure de moins y aller que revenir.
Oui.
Parce que les vents sont différents sur
exact.
Le retour que sur l'aller, etc. Donc, ça va me prendre plus de pétrole ou plus de kérosène pour revenir de Paris que ça m'en a pris pour y aller. Et tout ça fait que l'explication se tient, parce que si
oui.
La personne s'est retrouvée dans une traque de vent particulière avec une pression qui aurait changé soudainement et que son avion aurait pris beaucoup plus de rapidité ou de vitesse que qu'est-ce qu'elle était supposée être capable de faire, et ça peut détraquer les instruments aussi.
Ben
si l'avion n'est pas adapté pour ce genre de phénomène-là, ben peut-être que là, les instruments vont dire « Oh, on va trop vite! Ah! » Puis là, ils ont capoté. Moi, j'aime ça comme explication.
Ah, moi aussi. Moi,
ouais,
aussi. Moi
ouais,
c'est pas mal celle-là
ouais, ouais.
Que je crois. Puis c'est cette théorie-là qui revenait souvent. D'ailleurs, les théories, les explications selon les scientifiques, météorologues, experts de l'océan, des vents et tout, on apprend derrière, c'est pour ça que je l'ai comme gardé pour la fin, mais les explications scientifiques, on en apprend beaucoup sur l'océan et l'atmosphère. Et ça donne pas le goût de prendre le bateau puis l'avion.
Non, hein? ça fait peur quand
exact.
On regarde ça. Hein,
on
comment?
Se rend compte que c'est peut-être pas des disparitions de science-fiction et tout, mais en fait, on se rend compte que sur la planète Terre, il se passe des choses sur l'eau puis dans le ciel qui sont réelles et c'est dangereux, en fait, qui ne sont pas gérables. On ne peut pas gérer ça.
Non,
et,
c'est ça.
Ça fait partie des risques là, du transport aérien et du transport maritime.
Parce que la nature est extrêmement forte et dans certains cas, c'est un cocktail de circonstances qui se rencontrent soudainement, qui crée un phénomène particulier. Il y a des phénomènes qu'on connaît comme les ouragans, les tornades, ce genre de choses-là. Et on est capable sensiblement de bien les expliquer, mais même en 2019, les tornades, on ne peut malheureusement pas les prévoir longtemps à l'avance, ce qui fait que souvent, quand ça arrive dans un endroit qui est peuplé, il y a énormément de dégâts, de blessés, de morts, parce que on est rendu à je ne sais pas combien de minutes avant que la tornade se forme, mais c'est en question de minutes qu'on est capable de prévenir les gens. Alors souvent, les gens n'ont pas le temps de quitter ou d'évacuer. Il y a des abris qui sont aménagés à des endroits où il y a beaucoup de tornades, mais on n'est pas encore capable de dire « Ah, dans 3 heures, il va y avoir une tornade dans votre coin. Là. Ramassez le chien, puis partez. » C'est pas ça, c'est comme « Vous avez 15 minutes pour aller vous cacher, puis encore là, 15 minutes, là, c'est beau, là, puis ça peut arriver avant. Alors dépêchez-vous, allez vous cacher. Puis si vous ne trouvez pas le chien, ben là, bonne chance au chien.
Faut pas oublier que la Terre, c'est un corps céleste qui flotte dans l'espace. Et quand on regarde Mars, des fois, il y a des tempêtes de sable qui engloutissent la planète Mars. Ça dure des semaines et des semaines. Il y a l'ouragan sur Jupiter qui dure depuis des mois et des mois, qui est aussi gros que la planète Terre. Ouais. Faut pas oublier qu'on est un corps céleste qui flotte dans l'espace. La Terre, on peut se ramasser avec des catastrophes, les nuages, les ouragans. C'est quand même... Il se passe des choses aussi sur la planète.
Et ça, c'est ce qu'on connaît et observe à chaque année, mais il y a des phénomènes particuliers météorologiques qu'on observe que très rarement ou qu'on n'a pas encore observé qui peuvent arriver.
Mm-hmm. Avant de poursuivre avec justement ces phénomènes météorologiques extrêmes.
Oui, t'avais une troisième histoire, toi.
J'en ai une troisième. Celle-là est pas pire, elle est pas pire. Est-ce que tu sais, si je te dis le mot OSNI, est-ce que ça te dit de quoi, Jason? OSNI.
Objet S. Non.
C'est un objet sous-marin non identifié.
Ah!
Alors, on aurait aussi aperçu dans le triangle des Bermudes des OSNI, des objets sous-marins non identifiés. Cela paraît incroyable, mais plusieurs rapports de l'ex-Union soviétique suggèrent que l'existence d'objets sous-marins non identifiés est plus plausible que l'on imagine. Ces rapports concernent le commandant de sous-marins Yuri Beketov. Yuri Beketov.
Beketov.
Le petit accent russe.
Ben oui,
chargé
ça fait monsieur.
Oui.
Ça fait
exact.
Quoi ton nom? Beketov.
Oh, Beketov. Okay. Lui, il était chargé de patrouiller dans le Triangle des Bermudes en 1980 en sous-marin.
OK.
Il est écrit que les instruments à bord étaient sujets à de soudains dysfonctionnements à bord du sous-marin.
C'est un thème qui revient régulièrement.
Le dysfonctionnement des appareils, des radars.
Même s'il n'y a pas de drame ou même s'il n'y a pas de disparition ou de naufrage ou d'écrasement associé, il y a des gens qui disent, dans le Triangle des Bermudes, c'est arrivé à quelques occasions que mes instruments, mon sonar, mettons en bateau, mon sonar, mon compas, ma boussole, mes instruments de navigation, se sont mis à capoter, puis il n'y avait aucune raison. On dirait que c'est un thème qui revient plus souvent dans le Triangle des Bermudes que n'importe où ailleurs sur la planète.
Le dysfonctionnement des appareils électroniques à l'intérieur soit du sous-marin, de l'avion, du bateau, c'est vrai que ça revient souvent. Et là, il a dit que non seulement c'est un dysfonctionnement dans le sous-marin, mais parfois, les instruments se bloquaient comme visés par une puissante technologie provenant de l'extérieur du sous-marin.
Hmm.
À plusieurs occasions, le sonar de Beketov aurait détecté, et c'est là que ça fait peur, des objets non identifiés se déplaçant à plus de 420 km à l'heure sous l'eau.
Hey boy. Alors,
le radar a commencé à sauter, pip, 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 et il voyait des objets passer à 420 km à l'heure, sur le radar, sous l'eau, à côté du sous-marin.
Ça, c'est 5 avions, ça, qui volent encore, mais sont rendus en dessous de l'eau. C'est extrêmement rapide.
Exact. Le commandant Beketov a écrit que ces objets semblaient déjouer les lois de la physique, étant donné qu'on est sous l'eau. L'eau, ça a une masse. Donc,
absolument. Ça ralentit. Là, on a beau être aérodynamique, sous l'eau, il y a une force contraire qui va contre n'importe quoi qui se déplace.
Et selon lui, là, les créatures, comme il l'a écrit dans son rapport, qui les ont construits, nous dépassent de très loin technologiquement. Alors peut-être la cité Atlantide, peut-être Aquaman et son équipe, peut-être on ne sait pas, puis tu sais, dans les vidéos, les documentaires où on voit les objets en question, ça paraît curieux parce que comme si c'était vraiment quelque chose qui passe à travers l'eau, tu sais. Comme si ça passait à travers l'eau. Le radar, là, il détecte ça se passer. Puis en tout cas, Ça fait bien peur.
Il n'y a pas de témoins visuels de ça, j'imagine. C'est que des instruments qui ont enregistré ces phénomènes-là.
C'est le radar du sous-marin qui a aperçu ces objets-là passer dans le radar. Alors, le radar est quand même, c'est le radar d'un sous-marin en 1980 quand même. 1980, c'est un
sous-marin. On utilise encore beaucoup de technologies de cette époque-là, mm-hmm. en 2019, là, dans certaines pièces d'équipement. Donc, ça devait être relativement fiable. Mais j'ai quand même pas le choix de me dire... Hey, c'est comme n'importe quoi, la meilleure technologie peut faire défaut aussi à l'occasion. Exact. Donc, ça peut être un phénomène qui oh, hey, ho, oh, il pense que c'est ça. Puis finalement, c'est un technicien qui a mal branché deux fils ou quelqu'un qui s'est cogné après un poteau, puis ça a fait faire un court-circuit quelque part. Et donc, on n'a pas le choix quand même d'envisager que ça peut tout simplement être une défectuosité de l'équipement.
Puis ça, on va pas plus loin non plus. Donc, on peut penser toutes sortes d'hypothèses. Il n'y a pas plus de données là-dessus, pas plus d'informations.
Il a juste dit, on a vu des affaires bizarres sur notre radar. Faites-en ce que vous en voulez.
Exact. Des objets sous-marins non identifiés, c'est des créatures bizarres. Alors,
c'est quand même particulier parce que si on se rapporte dans les années 80, en ex-Union soviétique, ou c'était l'Union soviétique à l'époque, quand tu étais un gros haut gradé militaire, tu n'arrivais pas à dire « Hey, on a vu des affaires bizarres! » Il y en a qui avaient tendance à disparaître assez facilement à cette époque-là.
La crédibilité en mange une claque quand tu arrives et tu dis à ta gang dans l'armée « Moi, j'ai vu des extraterrestres sous-marins. » Faut que tu ailles quand même.
Faut quand même avoir de quoi pour l'appuyer ses dires. Exact. Bon, il y avait la guerre froide n'était pas terminée à cette époque-là. C'était la course à quelle est la meilleure puissance mondiale, les Américains avec la démocratie et l'Union soviétique à cette époque-là avec le communisme. Et du côté de l'Union soviétique, mal paraître aux yeux du monde était un péché absolument mortel pour n'importe qui était haut gradé. Des séances de photos où un militaire se présentait en état d'ébriété et soudainement, « Hey, oh, Bob! Bob! On l'a vu tantôt, mais on l'a jamais revu. Il est parti. »
Alors, il fallait pas jouer sur la crédibilité de l'Union soviétique, surtout pas.
Il n'y a pas trop de scrupules à faire disparaître les gens qui nous faisaient mal paraître publiquement à cette époque-là. Donc, lui est déclarer ça.
Oui, c'est encore un rapport étrange qui fait partie des dossiers du Triangle des Bermudes. C'est le rapport de ce commandant russe d'un sous-marin, d'une équipe de sous-marins complète qui aurait aperçu des drôles, justement, des objets sous-marins non identifiés qui allaient super vite sur le radar, alors que le radar était en dysfonctionnement. Alors là, on pourrait se dire, bon, c'est le dysfonctionnement du radar, mais en même temps, les objets semblaient très clairs là, sur le radar. Alors bref, c'est mystérieux, ça fait partie des mystères, justement, du Triangle des Bermudes, les objets sous-marins non identifiés. On poursuit avec un bateau, un gros bateau. Le 24 octobre 1980, le navire appelé le SS Poète transporte une cargaison de maïs vers l'Égypte. Il fait la taille de deux terrains de football. Énorme bateau, un gros cargo.
On parle entre 200 et 220 verges, dépendamment si c'est du football canadien ou américain. quand même assez long, là, le bateau.
Ah, c'était vraiment un très, très gros bateau. 11 000 tonnes. 11 000 tonnes, le bateau. Et il a disparu sans laisser de traces.
Pouf! Si.
Exactement. Les gardes-côtes partiront à sa recherche dans l'Atlantique pendant 11 jours, mais aucune trace de ce navire de 11 000 tonnes ne sera jamais retrouvée. Premier indice de la disparition du SS Poète, le capitaine n'a pas envoyé de message de détresse. Cela laisse
penser... On n'a aucun message, rien, juste... Il n'est jamais arrivé à destination, mais on l'attendait toujours parce qu'il n'y avait pas eu de message comme quoi il y avait des difficultés.
Donc, tout s'est passé, selon les données, étant donné qu'on n'en a pas, en fait, tellement vite que personne n'a eu le temps de réagir. Vraiment, là...
Il y a des mangeurs de bledding qui devaient être déçus. Vraiment.
Donc, il y a un navire de... En 1980, là, le SS Poète, qu'on n'a jamais retrouvé. Un navire de 11 000 tonnes, de deux terrains de football.
Ouais, c'est ça, c'est pas un petit yacht. Là.
Non, exact.
C'est un gros terrain. Est-ce qu'on a des théories pour celui-là?
Oui, on en a.
Vas-y, parce que moi j'en ai une, mais j'arrive, je vais voir si elle est...
J'arrive justement aux explications météorologiques.
Bon, c'est, là, les histoires écoute, sont ouais, on a fait les histoires, Tristan, on a déjà complété notre temps. Mine de rien, ça a passé vite, mais on a déjà une trentaine de minutes de fait. On va garder tout ce qui est explications, théories, parce qu'il y en a, puis il y en a des farfelus. On va garder ça pour la deuxième partie de l'émission.
Parfait.
Donc, on va se retrouver vendredi prochain. On laisse les gens comme ça. On n'est pas fin.
Exactement. C'est un rendez-vous vendredi prochain. On va y aller avec les explications scientifiques. Vous allez avoir moins peur
du triangle des Bermudes. Oui, puis les moins scientifiques aussi, parce qu'il y en a des farfelus.
Vous allez avoir moins peur du triangle des Bermudes, mais
Vous allez avoir peur de la météo en général partout dans sa planète. Alors, hey, on se laisse avec le bateau de 220 verges rempli de maïs qui est disparu.
Les poissons étaient bien contents.
Hey, bye-bye tout le monde, à la semaine prochaine.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
L'émission Info Mangani, tous les jours de la semaine dès 11h30 sur les ondes de CLE.